plus drôle, plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide, de si et d'ailleurs.
Je me sache une revue de cul à un moment donné, ça. Une revue de cul.
Pourquoi faire?
Ah, ben c'est pour. C'est parce que c'est ma table chez nous. C'est qu'il y a une. Il y a comme un. Tu sais ce qui est en dessous des tables, des pattes?
Oui.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Il y en a une qui est beaucoup plus courte. Elle est plus courte de ça à peu près. Okay. Que les autres, à peu près un pied, mettons.
T'as acheté une revue de cul?
Non, j'en ai acheté, je pense, 75.
Ouais, mais ça, t'aurais pu acheter une brique.
J'aurais pu acheter une table.
T'aurais dû plus prendre tes vieux DVD qui traînent.
Ouais, mais tu sais, on n'est pas toutes. Je me crosse pas avec des pattes de table, moi.
Oh non?
Non.
Ouais, mais comme Sophie a dit, t'aurais pu prendre ta collection de DVD.
Non.
Non.
J'aime mieux. Non. C'est j'aime bon mieux les conserver le plus longtemps possible, puis les jeter au premier déménagement.
Ouais. T'en as combien de DVD, tu penses?
Combien j'en aurais?
5.
Non, plus que 5. 6. Fait qu'on entend Étienne, en tout cas. parce que j'essaie de répondre 10. Sérieusement. 20. Donne-moi au moins 1000, mais je pense mais plus que ça. Je sais, mais c'est je sais pas. DVD. Mais je sais pas.
T'en
je...
écoutes combien par année?
Oh! On était en onde!
Oups!
En tout cas, Rachel adore quand je rapporte des nouvelles caisses de DVD à la maison. Ouais. Mais ouais, rappelez-le-moi pour d'ici la prochaine émission, je vais essayer de les compter.
Ah!
Quitte à me tromper de 2-3, là, mais tu sais, d'avoir un chiffre approximatif.
Ça pourrait être ça ton contenu Patreon cette semaine, compter tes DVD.
Ah, je vais venir bientôt en fait sur mon contenu Patreon, puis il est un peu plus coloré que ça. Okay. Mais je vous raconte ça dans quelques minutes. Oui. Je suis très content, j'ai avec moi Étienne Forêt, comment tu vas?
Salut la gang, ça va très bien. En direct d'un Saint-Adèle enneigé, je vous rejoins. Vous autres, ça va?
Oui, ben je vais y venir. Ah, là. C'est moi qui pose les questions.
T'as pas le droit de parler. Dans un magnifique décor, Étienne, en traîneau.
C'est exactement ça.
Est-ce que tu as fait du crazy carpet pour descendre ton mont?
Oui, c'est comme ça que je me rends au travail tous les jours.
Nice.
Ouais, je pars d'en haut, puis ça me donne un élan jusqu'à Saint-Thérèse.
Puis quand tu reviens du travail, comment tu t'y prends?
Ouais, là, ça, c'est plus difficile. Là. Là,
t'assois,
puis tu traînes. Puis
t'appelles Gabriel, tu demandes de tirer ton traîneau jusqu'en haut de la montagne.
C'est ça, je demande à Damia de me tirer.
Ah, le chien. Ah, ben oui, c'est vrai. Est-ce que le chien s'en occupe? Tu t'appelles Gabriel, tu demandes d'amener le chien jusqu'en bas de la montagne.
Exact, ouais, c'est du trouble un peu.
Mais c'est beaucoup de trouble, effectivement.
Juste avant qu'on continue,
est-ce qu'on me confirme là, que tout là, est-ce que le YouTube fonctionne?
Oui, moi je suis dessus en ce moment, il fonctionne.
YouTube fonctionne. D'accord. Je voulais confirmer ça, je ne voulais pas te garder ça en tête pendant une heure.
On me dit que le micro de Max est éteint, par exemple.
Le micro de Max est éteint. Bon.
Oh non, ça va.
Ben, je vais pas garder ça en tête pendant une heure, c'est mieux qu'on règle ces choses-là.
Mais c'est vrai que je m'entends un peu.
Moi, je t'entends. C'est Mathieu qui dit qu'il t'entend pas.
Ben, Mathieu,
le modérateur.
Mathieu, confirme-nous ça pendant ce temps-là. Je vais saluer mon amie Sophie. Salut,
hey,
Proto, qui vient d'avoir 20 ans cette semaine. Comment vas-tu,
effectivement.
Sophie?
Ça va très bien, toi?
Oui, on vient de tourner, c'était le fun. On est allé en tournée à Val-d'Or et à Rouyn, c'était bien plaisant.
C'était pittoresque, il paraît?
C'était pittoresque, ça fait changement. C'est beaucoup drôle. Ben là, je veux pas...
On salue les gens de Val-d'Or.
Faut faire attention à ce qu'on dit. Là. Non, mais c'était... les gens sont très, très accueillants. C'est qu'on disait juste que vraiment, c'était pas le même rythme de vie qu'à Montréal.
C'est sûr.
Fait que nous, c'était dépaysant pour nous, mais on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. En particulier à Rouyn, j'ai aimé les deux. Égal, mais en particulier à Rouyn, là, vraiment, il y avait ma soeur Madeleine.
J'aimais les deux égales, mais plus à Rouyn.
Oui, il y avait ma soeur Madeleine dans la foule et tout.
Ah, habite à Rouyn?
Ma soeur habite à Rouyn, puis le père de Rachel habite à Val-d'Or, fait que j'ai pu voir les deux. Puis le spectacle était assez vulgaire, fait que là, des questions du public, ils venaient pour faire mon comique, je fais « Est-ce que je peux encore fréquenter votre fille, Marc? » Mais tu sais, bon... des blagues, là, tout ça. Mm-hmm. Et dans le fond du bar, finalement, je l'apprends le lendemain qu'il n'a pas compris ce que j'ai demandé. Puis là, il répond « Oh, je suis trop saoul pour répondre. » Puis là, je pense qu'il fait une blague. Ben, il fait une blague, mais je pense qu'il fait une blague en lien avec ce que je viens de dire, mais finalement, c'était comme une blague universelle de peu importe ce que j'aurais dit, c'est ça qu'il aurait répondu.
Nice.
Puis là, Rachel, il a expliqué, puis là, il l'a rappelé plus tard pour lui dire, ben non, ben, Julien, il peut sortir avec toi, ça me dérange pas.
Oh.
Papa, il faisait des
bénédictions paternelles.
Ah, non, non, je veux être certain. Fait qu'il voulait être certain.
Que tu peux l'épouser maintenant.
Non, 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 non.
Quoi?
Pas le temps pour ça, là. Très content avec moi aussi. Maxime Gervais, comment il va?
Ça va bien. Ben, je vais m'en parler tout de suite. Les billets sont sortis pour les projections de Claude Crest Labaloune. Le
les billets sont pas juste sortis, ils sont tous vendus.
Allez acheter ça, mais allez, il y a une supplémentaire à Montréal le 5 avril. Il y a des billets qui viennent de sortir pour Québec le 12 avril. Et Alma le 21 avril au Café du Clocher à Québec, c'est à l'Anti. Fait qu'allez tout acheter ça. Puis ça va, on va passer une belle soirée. Tout
ah
ça.
Oui.
Ben, Montréal, tu l'as annoncé hier matin, oui. Au moment où on se parle. Oui. Puis à 11h, c'était soir.
Ouais, ouais. Moi, je me suis fait comme que... réveillé d'excitation à peu près 6h30. Puis là, j'ai tout lancé ça. Je me suis rendormi parce que j'étais fatigué. Oui. Puis en me réveillant, c'était sold out. Fait que
c'est fou. Ben, alors, ça va être. On a... Oui, vas-y.
Vu que c'est un soir de grande première, est-ce qu'on peut mettre des robes de soirée?
Absolument.
Yes!
Ah, je peux mettre une
robe. On peut mettre des robes d'après-midi.
Ben oui.
Ben oui, des robes de matin, évidemment. Et on a avec nous
Normand Lester.
J'avais hâte de savoir c'était qui. Ouais.
Je suis venu pour vous parler d'un événement historique sur le côté sociologique d'une crise qui se passe en ce moment. Et j'ai bien hâte de vous en parler de vous en parler, car on ne savait rien de cette crise-là il y a quelques semaines, mais c'est une crise légendaire qui se passe depuis de générations. En génération.
Mon Dieu.
C'est vous êtes assez éloigné de moi ici physiquement. Là. J'ai de la misère à voir. Vous portez des lunettes?
Oui. Ben là, je sais pas trop c'est quoi mon look en ce moment.
Mais... ben, c'est-tu vos yeux ou des lunettes?
C'est des lunettes à travers mes yeux.
Ah! Ah
d'accord. Ah, ben, oui,
okay.
Il ouais, y a une patte de chat dans le...
J'ai l'impression que ce chat-là, je l'ai déjà vu dans ma maison du temps qu'il
appartenait
à mon
cheveux,
fils.
Ce sont mes cheveux, mon cher ami.
Il ressemble drôlement au chat de mon fils Anthony quand il était enfant.
Ben là, maintenant, c'est mes cheveux.
Comment qu'il va, Anthony? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, là.
Il va très bien.
Ben, depuis qu'on ne te demande plus s'il est vierge.
Ouais, c'est ça.
Plus rien n'est intéressant maintenant.
Que... vraiment intéressant maintenant.
Tout le reste après, whatever.
Non, non, ça fait qu'il n'est plus vierge.
Il est plus... Ah non, ça fait longtemps, là, ça.
All right, all right. T'es parti de ce que tu disais?
Je me demandais si Étienne était là quand... au moment de...
Il a donné sa bénédiction.
Non, je n'étais pas là. J'ai été mis au courant par la suite. Ouais.
Fait que c'est sa parole, là. Tu ne le sais pas, dans le fond.
Oui, ben en fait, c'est ça. Il n'y a pas de test, malheureusement, de test rapide qu'on peut passer pour ça. Fait que moi, je me fie à lui.
Ben, attends, peut-être une question que seulement un gars qui aurait éjaculé pourrait répondre.
Ben, il peut avoir éjaculé en étant vierge quand même.
De quelle couleur?
Qu'est-ce que c'est?
À quelle vitesse s'expulse?
Même
la
ça, même si t'as éjaculé.
Moi, j'ai déjà eu un accident de voiture.
Ah oui?
Pour vrai?
Ben, parlez-nous-en.
Ah, ben, oui. J'avais eu un arrêt cardiaque, puis j'avais rentré dans le cul d'une autre voiture. Heureusement, les pompiers n'étaient pas très loin. D'ailleurs, c'était juste ici, là, à côté de l'hôtel de ville. Et ma foi du bon Dieu, ils m'ont sauvé la vie et ils m'ont trouvé une nouvelle perruque.
C'est une perruque, c'est pas vos vrais cheveux?
Non, c'est mes vrais cheveux. Ah, OK.
Okay. Bon, ben, non, on a mis ça au clair. Alors, on va y aller avec des petites nouvelles brèves d'abord. Alors, Mathieu avait un message pour vous que je m'empresse de vous lire à l'instant. Mathieu, c'est un des collaborateurs de l'émission.
Non,
c'est,
pas.
Non.
Ben, t'habitais avec lui pendant quelques heures.
Non.
OK. Ben, c'est pas grave.
Mathieu, alors, qui était un illustre inconnu jusqu'à tout récemment, et il a commencé un Twitch, et ma foi du bon Dieu, ça a explosé, et il a même quitté son emploi au Casino de Montréal, le casino qui était, à l'époque, mis en place par le gouvernement pour contrer les casinos illégaux du crime organisé. Mais est-ce qu'on est mieux placé avec un casino qui fait des publicités à la télé? Je me demande si c'était une bonne idée ou non, avec le nombre de suicides. Alors, je salue Mathieu.
Ben oui, d'ailleurs, vous suivez son Twitch tous les soirs, vous me disiez.
Ben, j'aime bien regarder ça pendant que ma femme est en train de rêver à d'autres hommes.
Ben, vraiment, vous voyez qu'est-ce qu'elle rêve. Alors, Mathieu m'a écrit... Salut, petit jus. Pour demain, si tu veux bien, il y aurait quelques infos à passer à propos du live du 29 mars au terminal.
Ah, c'est la grande annonce.
Parce que oui. Oui, il y a un live le 29 mars au Terminal.
Ah, oh, il y a un c'est live vrai, spécial.
Ça. C'est exact. Je pensais que c'était juste des rumeurs.
Alors, ça va être un jeu de rôle post-apocalyptique mené par Étienne.
Hein?
Donc, un donjon et dragon en quelque sorte, là, mais post-apocalyptique, genre. Mad Max. Qui va être mené par Étienne.
Oui, t'as-tu des choses à nous dire, Étienne, là-dessus? T'as-tu déjà commencé à préparer?
J'ai pas fini de dire mes notes. Je
peux vous dire que j'ai rien préparé encore.
Yes!
Ben, c'est
scoop!
Le 29,
ouais, c'est ça, là, on a le temps.
Ça sonne comme le 29 au matin, ça, là. rappel que nous ferons tirer une paire de billets parmi tous nos membres Patreon et qu'il n'est pas trop tard pour s'abonner. Alors, je vous rappelle que nous allons faire tirer une paire de billets parmi tous nos membres Patreon et il n'est pas trop tard pour s'inscrire à notre Patreon. En plus, nous ferons tirer deux paires parmi les membres à 10$. Actuellement, il y en a 18. Alors, les chances...
Les marmites.
Les gens ont plus d'une chance de... Ben, les gens ont plus de chances d'en gagner un s'ils sont membres à 10$. Alors, vous pouvez y penser. Puis ça nous encourage un petit peu plus, évidemment. Aussi, les membres Patreon à 10$ auront accès au lieu de vente 72 heures avant tout le monde, puis les autres membres 24 heures avant d'ouvrir au grand public. Les places seront limitées autour de 80 billets. Fait que presque toute l'équipe, je sais que Maxime n'aura pas le temps, là. Heureusement.
Heureusement.
Heureusement pour tout le monde.
On fera plus de temps pour les autres.
Mais c'est ça. Mais presque
on
toute l'équipe.
On fait un spécial être... Mad Max, puis Max n'est pas là.
Oui, c'est ça.
Ça commence
c'est lui
vraiment.
Qui est mad.
Il est trop... tellement mad que je suis pas là.
Il n'est pas allé.
Il est trop mad, Max.
Trop mad pour être là.
Tout le monde sauf Maxime. il sera.
Ils ont pas voulu.
Non, fait que c'est ça. On fait donc un de nos premiers shows devant le public. Fait qu'on est très contents, les Patreons, de voir ces petits avantages-là que je viens de nommer.
On a-tu dit que c'était au Terminal?
Je pense que je l'ai dit, mais on va le répéter. C'est au Terminal, le 29. Alors, c'est à Montréal,
Papineau.
Mais on va en faire en dehors de Montréal, mener.
Ah oui?
Là, on a parlé de ça.
J'ai interagi avec toi, Julien.
Ah, OK. Non, ben là, parce que moi, ça me fait douter parce que je me rappelle plus de ce qu'on parle. Après, comme...
On pourrait faire un live à Sainte-Adèle, au café de Marc-Hervieux. Qui
oh mon Dieu. Ben là, oui.
On peut faire un live à Sainte-Adèle.
Il y a l'air d'avoir comme 6 places là-dedans, là, mais...
Mais c'est quand même. Tout le long, on n'entendra pas ce qu'on dit.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais va y parler, puis demande-y de nous trouver une salle ou quelque chose. Là.
Ouais, je vais aller parler tantôt après l'émission.
Ben voilà.
Tu vas aller te voir dans un miroir pour se faire.
Hey, c'est drôle parce qu'on ne connaissait à peu près rien de ce Marc Hervieux il y a quelques années. Et voilà qu'il sort des spectacles et qui fait un succès fou. Et c'est une réussite admirable avec le contexte sociopolitique de la planète en ce moment. C'est vraiment merveilleux.
Je me sens-tu l'émission Pop-Up à Musique Plus? Il y avait des. Eh bien,
nous savions à peu près rien de lui. Ça tourne un peu autour de ça. Alors voilà, donc si vous avez apprécié l'épisode de Donjon Dragon de Décidéré, je sais que ça fait longtemps que vous en demandez un troisième. Ça fait 5 ans, je ne sais pas trop. Genre. Ben là, ça s'en vient finalement.
Ça ne sera pas tout à fait Donjon Dragon, mais genre.
Ouais, ben c'est ça. Ce sera pas exactement.
Ça va être mieux.
Mais genre.
Ça va être mieux, ben oui.
De ça, on va continuer toujours sur le sujet des Patreons. En fait, c'est que j'ai filmé mon contenu Patreon pour cette semaine hier. Hier, j'ai eu ma deuxième gastroscopie à vie.
Ah, c'est ça qu'on va voir live sur Patreon?
Fait
ben,
que,
pas live, mais...
Je me suis dit, je vais traîner mon cellulaire, puis je vais me filmer avant et après, puis dans la mesure du possible, pendant.
Hmm. Ouh!
Fait que j'ai fait un petit documentaire sur ma gastroscopie.
Y a-tu des shots de drone?
Ben, y a pas de shots de drone.
T'aurais dû engager Mario.
Il n'y a pas de shot de drone. Au final, le résultat n'est pas très long. Je l'ai tout monté hier. Puis après ça, quand venait le temps de l'exporter, ben, j'ai réalisé que c'était une trial version du programme.
Oh.
Fait que là, la vidéo, ben, il y a comme une petite barre au milieu avec le nom du programme.
Bon, très professionnel.
Non, mais ouais, mais les gens préfèrent ça comme ça.
Peut-être.
C'est plus authentique.
Il y a mieux quand il y a de quoi dans le milieu de la.
Ben moi, quand je regarde une vidéo, je veux savoir avec quoi ça a été monté.
Mais oui.
Mais tu sais, elle n'est pas grosse, la barre, là. C'est une petite barre. Elle n'obstrue pas l'image.
C'est correct.
Non, c'est ça. Ça agace pas l'œil, là.
Mais là, Julien, est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux révéler ou c'est un punch que tu vas garder? Est-ce que tu as fait ta gastroscopie à froid encore comme la dernière fois?
Ben, je peux quand même en parler un peu, là. Je ne l'ai pas fait à froid cette fois-ci.
Ah, OK. Alors, est-ce que tu compares les deux expériences aussi? Fait que tu as vu les deux
côtés.
De
ce que je me souviens, oui, un peu, là. Je le compare un peu. C'est sûr que je savais que je ne pourrais pas filmer l'opération en tant que telle. Fait que je me suis dit, je vais partir mon sel dans ma poche pour entendre au moins le son. Mais ça n'a pas marché, ça non plus.
Oui, ça ne doit pas, ouais.
Fait qu'essentiellement, c'est avant puis après la gastroscopie, mais ça reste quand
même... J'ai mon sel dans ma poche pour pogner le son. J'entends juste des frottements.
Ben, il y a eu encore des...
Ah,
non!
Mais il l'a pas. Fait que, bon, ouais. En tout cas. Mais ça fait quand même une espèce de tout cohérent, qui est relativement court. Qui donne une expérience de c'est quoi vivre une gastroscopie. Fait que là, si vous comparez avec l'épisode précédent, dans lequel je mets des extraits aussi, ben vous savez c'est quoi le faire gelé puis pas gelé. Je vous laisserai deviner lequel est le plus préférable.
Alors, j'ai hâte de savoir.
Alors voilà, et sinon, ben, les résultats sont positifs. Alors il y a ça, on prend, c'est ça qui est important. Ben, il y a encore du travail à faire, mais on est dans bonne direction, ça va bien. Fait que c'est ça. Alors, pour les membres Patreon, vous pourrez voir ce mini-documentaire théoriquement mercredi, c'est ça?
Ouais.
Mercredi. Alors, je trouve une manière d'enlever la barre au milieu ou de me dire que ça va être ça. Là.
Ouais, ben, je pense que c'est quelle option. Ouais.
Ben, parce que sinon, ça fait qu'il faut que je fasse mon montage au complet.
Ouais.
Ben oui. Ou que tu achètes la licence puis tu fais juste le...
On peut acheter la licence, là.
Le réexporter.
C'est comme 80$.
Ah ouais, non, on n'a pas ça. Ouf, non,
ben,
plus.
Ben oui, genre, OK, je vais acheter la licence d'une affaire de logiciel comme ça, une fois.
Ben, après ça, tu vas pouvoir faire plein d'autres vidéos.
Ouais. Ben là, je n'en ai pas à chaque année des gastroscopies, quoi qu'on sait jamais, peut-être. Alors, ben à suivre pour les contenus Patreon. Sinon, j'avais des gens qui avaient rêvé à moi, mais je pense qu'on va y aller avec peut-être des collaborateurs quand même, vu que le temps avance. Alors, on va commencer avec Sophie. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie?
Oui.
Alors, on va mettre ton thème parce qu'on t'aime. 20 ans cette semaine, c'est incroyable.
Je sais.
Bienvenue à Plein Espace avec Sophie Post-Proto.
Ça l'est.
Ah, je l'ai dit moi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet incroyable, l'hibernation dans l'espace.
L'histoire de ma vie.
Ah oui?
J'en tout le temps.
Ah, il y a des ours dans l'espace.
Il y a des ours dans l'espace, effectivement.
Mais c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas jusqu'à récemment, jusqu'à temps que la NASA constate qu'il y a effectivement des ours dans l'espace. Et c'est un problème qui, finalement, n'en est pas un, car ils mangent les satellites qui sont désuets. Alors, ils sont notre propre compost, si on veut, dans l'espace. C'est fascinant.
Oui, ils mangent les satellites.
Oui, comme Yogi Bear.
Ah, oui, oui. Ah, c'est trop fort, les écouteurs, je m'entends trop fort.
Ouais, le récent, il joue le son.
Excusez, ça m'a throw off. l'Agence spatiale européenne et la NASA ont chacun parti dans les dernières années un comité hibernation en vue d'envoyer des gens sur Mars. Parce que pour aller sur Mars, ça prend à peu près 180 jours, une demi-année, puis c'est long, puis ça coûte. Le problème, c'est les ressources. Donc, les ressources de la bouffe. Tu sais, comme ils ne peuvent pas stocker de la bouffe pour 6 mois dans le vaisseau spatial qui s'en va sur Mars parce que là, ça prend trop de place, blablabla. Puis aussi, les ressources comme psychologiques, tu sais, comme tenir des gens pendant 6 mois dans un voyage vers Mars, c'est peut-être comme un peu... c'est tricky,
ouais,
là.
Ouais. Ben, c'est pas juste d'être enfermé, c'est que t'es dans le vide.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme il faudrait qu'ils entertainent, tu sais, qu'ils leur trouvent des films. Non, mais tu sais, genre, tu sais, faut quand même, c'est quand même long, là. Il n'y a rien à faire pendant 6 mois.
Ben oui, c'est vrai.
Ouais, c'est ça. Fait que là, ils se sont dit, ben la meilleure façon, on va s'inspirer de la science-fiction, c'est de les faire hiberner. Oui, exactement. Puis dans tous les films, en fait, les gens se mettent en mode d'hibernation quand ils voyagent. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va vraiment checker pour faire ça, puis comment c'est possible.
Ils font ça dans les films. Hein? Sûrement pas pour rien. S'ils font ça dans un film, c'est sûrement pas pour rien.
C'est sûr, c'est sûr. Puis, en fait, l'hibernation, c'est quoi? C'est comme un état de torpeur, mais à long terme. La torpeur, c'est quand tu soudainement tombes un peu endormi parce que ton corps shut down. Mais ça à long terme, fait que sur une plus longue période de temps. Puis, comment ils prévoient... Ben, attends, on va commencer du début. Là, ouais. Ils s'inspirent déjà de plusieurs...
De ma gastroscopie.
Entre autres. Oui. Ben, ils s'inspirent, en fait, en médecine. Est-ce que tu savais que pour... Il y a un traitement en ce moment en médecine que quand tu fais des hémorragies internes, pour être capable d'aller réparer l'hémorragie, il y a certains endroits qui font ça. Là, c'est encore assez innovateur comme traitement. Mais ils vont enlever ton sang puis ils vont mettre du genre de solution saline glacée. Tu sais, comme, pas, j'allais pas dire du...
Des medium ice cap.
Oui, c'est ça, exactement. C'est très salé du ice cap, c'est plus sucré. Oh, mais ils vont remplacer ton sang par de l'eau salée, glacée, pour être capable d'aller fermer l'hémorragie. Puis, fait que ça, ils sont comme, ah, ça pourrait être une option, mais c'est un peu tricky de remplacer à long terme le sang de tout le monde par de l'eau glacée. Sinon, il s'inspire aussi d'une une expérimentation qu'il y avait eu dans les années 50 par la NASA, par James Lovelock, qui avait... il ne l'avait pas testé sur des humains, juste sur des hamsters, mais il plongeait des hamsters dans des bains glacés. Puis là, les hamsters tombaient en état d'hibernation, genre. Puis là, ils prenaient une petite cuillère chaude. Puis là, ils mettaient la petite cuillère chaude sur leur chest. Puis là, les hamsters se réveillaient. Puis là, ils se sont dit « Ah, OK, OK, il y a quelque chose. » Ils donnaient
un coup de marteau sur la tête, ils oui,
Puis sinon, il y a aussi des légendes urbaines comme quoi les paysans russes en Sibérie hibernaient. Puis c'est comme quelque chose qui... font depuis toujours pour survivre, dans le fond, au froid glacial de la Sibérie, parce que l'hiver, ça arrivait souvent qu'il n'y avait plus de bouffe, donc les gens hibernaient ensemble dans des maisons, dans le sens où tout le monde faisait juste comme s'écraser, puis pas vraiment manger, puis juste dormir sans arrêt tout l'hiver. Puis là, il y avait baiser. Une personne... Hein?
Puis baiser?
Ben pour se tenir au chaud. Ouais. Non, ben ça dépense beaucoup trop d'énergie. Ça demande trop de calories.
Temps, il ressortait une seule personne.
Oui, il y avait grosse. Une personne qui était responsable de mettre une bûche dans le feu. Puis c'est ça. Mais c'est une légende urbaine. Puis là, ils se disent, OK, mais c'est possible. Ça veut dire que les humains pourraient probablement hiberner. Puis évidemment, l'autre grande inspiration, c'est les animaux qui, eux, hibernent. Ils sont comme les... J'ai littéralement lu, j'ai checké le PowerPoint de la NASA sur ça. Puis il était comme, ah, ben si les animaux peuvent le faire, pourquoi pas les humains? Puis je suis comme, ça, c'est pas si simple que ça. Ben ouais. Mais bon.
Écoute.
Et pourquoi pas?
Les animaux, ils le font. Pourquoi pas nous?
C'est ça. Parce que en fait, chez les animaux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une section du cerveau dans l'hypothalamus qui te fait tomber en état de torpeur. Mais le cerveau humain, il est comme ultra protégé. C'est super dur d'atteindre des sections de cerveau parce qu'il y a comme une grosse protection qui fait que les fluides se rendent pas, puis que si tu prends des trucs toxiques, ça se rend pas au cerveau. Donc, eux, ils cherchent comment activer puis se rendre à cette section-là.
Monsieur oui? Lester a une question. Je
Monsieur Lester?
Oui, je vous écoute, jeune Sophie, et je trouve ça passionnant. Est-ce que le terme « torpeur » fait référence à un état de peur? Est-ce que c'est relié? Pourquoi ce terme qui nous fait si penser au mot peur?
C'est une bonne question. Il va falloir que je fasse une chronique dedans. Là-dessus. Je vais faire une chronique sur le mot torpeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi l'origine. Peut-être que Mathieu pourra faire une brève recherche puis nous revenir là-dessus pendant Toujours Vivant.
Il demande que ça veut dire torpeur. Torpeur.
Ben, ou c'est quoi l'étymologie du mot, peut-être? Ouais,
mais
je sais pas.
Vous écoute, puis mes yeux sont très grands.
Oui, je vois ça.
Je trouve ça passionnant. Ah, il n'a pas cligné une fois, une demi-heure.
Ouais. Puis, oui, je vais aller rapidement. Puis là, les animaux, eux, qu'est-ce qu'ils font avant d'aller en hibernation? C'est qu'ils bouffent full de trucs gras et sucrés, genre au point d'être comme limite diabétique. Puis, fait que là, ils ont comme plein de ressources, puis ils sont comme un peu obèses avant d'aller en hibernation. Puis là, après, leur microbiome de leur corps s'adapte. Fait qu'il y a ce côté-là aussi qu'on ne sait pas que si les humains tombent en état d'hibernation, si notre corps va s'adapter de la même façon que les animaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a comme du mucus qui se répand dans tous les vaisseaux, le corps produit moins de globules blancs. C'est vraiment fucked up. Là. C'est comme le corps devient une autre affaire.
Mais qu'est-ce que tu manges quand tu dors?
Ben c'est ça, tu manges pas. Puis c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que tu produis pas de déchets. Parce que de pipi caca, parce que tu ne consommes rien. Fait que tu consommes juste ton propre gras. Fait que tout ce que tu produis, c'est du dioxyde de carbone.
Okay.
Fait que c'est hot. Fait que ça, c'est... Oui.
Mais c'est ça, c'est vraiment de recréer les aptitudes physiques des animaux qui hibernent. Mais on ne sait pas si on l'a, ça.
On sait pas si... ben, on pense que oui, mais on ne sait pas comment se rendre.
Ouais, c'est ça.
C'est surtout ça. Puis il faut aussi faire baisser. Fait que, tu sais, de quoi ça aurait l'air, c'est des espèces de, tu sais, de pods, là, genre vraiment comme dans les films de science-fiction où les gens sont debout, pas couchés parce que c'est meilleur pour les muscles d'être debout. Puis la NASA a fait une petite image, là, que, tu sais, t'as comme un AI où, qui va monitorer, dans le fond, la température du corps de tout le monde, puis les signaux vitaux. Mais aussi, il y a un petit bras qui va se promener d'une personne à l'autre puis donner des petits chocs électriques
c'est
sur
Peter
les muscles.
McLeod.
Le petit bras, puis ben tu sais, oui. La petite main qui est comme... Elle donne des petits chocs électriques pour pas que les muscles s'atrophient, dans le fond. C'est fou, hein? Puis là, dans le fond, ton métabolisme, il baisse ta température autour de 32 degrés Celsius. Puis ça ralentit ton métabolisme à 75%, de 75%. Puis c'est ça, t'as besoin de rien. T'as besoin de pas de bouffe, de pas de soluté. Théoriquement, si t'es assez gras, ton corps va se auto-sustenter.
Donc, faut être vraiment gras pour que ça fonctionne, théoriquement.
Mais c'est parce que là, c'était pas clair si eux, ils sont en train de regarder pour justement donner du soluté pour pas qu'ils aient besoin de comme être déjà gras avant d'aller. Ouais. Puis, mais là, ce soluté-là créerait des déchets. Mais je sais pas, tu sais, les gens qui sont dans le coma, ils ont des sondes d'habitude, j'imagine.
Les fesses?
Oui, puis dans le...
Dans l'urètre?
Oui.
Je sais pas.
Moi, je me rappelle avoir eu une sonde, m'écrivais avec une sonde, puis je savais pas que j'avais une sonde.
Tu sais, rendu là, si t'as un petit bras qui est capable de donner des chocs électriques, j'imagine que t'es capable d'avoir un système qui évacue les déchets.
Oui, c'est ça.
C'est un niveau de plus, mais...
Un tube d'aspirateur.
Puis impossible. Après, c'est plus comme le... Faut que le vaisseau spatial soit capable d'évacuer ces déchets-là aussi, puis tout ça.
C'est ça.
Mais c'est fascinant.
Absolument.
L'hibernation, ça s'en vient, gars.
C'est la clé.
Mettons, ça pourrait combler le fait qu'aller envoyer un être humain 2 ans quelque part, c'est trop long, c'est trop ennuyeux, c'est inhumain.
C'est ça.
Fait que là, ça deviendrait humain parce que la personne sauterait 1 an ou 2.
Ouais.
Bien que toute cette histoire-là me rappelle un récit que j'ai vu dans un film fascinant où un homme essaye de construire une piscine chez lui et tombe sur un glaçon où conservait un homme des préhistoriques.
Ah oui.
Et toute cette histoire-là se passait à la ville d'Encino.
Oui, la Belette.
Et, je trouve ça fascinant qu'on puisse ressusciter des hommes des cavernes, car je crois qu'ils peuvent nous apprendre des choses sociopolitiques extravagantes, et je trouve ça extrêmement pertinent dans notre contexte sociopolitique actuel.
Ah, je suis bien d'accord.
Fait que là, mettons, là, on n'est pas sûr si c'est possible.
On n'est pas sûr, mais c'est la seule solution pour qu'on aille sur Mars. C'est pour...
Fait que là, mettons, si on arrive à... ultimement, on va finir par trouver le moyen.
Oui.
Fait qu'ultimement, on va être capable de le faire 6 mois. Si on est capable de le faire 6 mois, on est capable de le faire 600 ans. Je m'excuse.
Ben, probablement que les riches, genre Jeff Bezos, puis tout, qui veulent vivre éternellement, eux, ils vont encore, ben là, justement, cryogénisez-moi, puis réveillez-moi dans 500 ans.
Ben, tu sais, dans 600 ans, tous les gens qui connaissent puis qui aiment sont plus là. Leur argent vaut beaucoup moins.
Jeff Bezos, je pense pas que ça les dérange.
Non,
il va se réveiller dans un halo de lumière, là.
Mais Jeff Bezos aime.
Sophie, jeune Sophie, pleine vie. Dans le film Seul sur Mars, The Martian, qu'on nous avait décrit comme étant un film extrêmement réaliste, il se rendait sur Mars dans des vaisseaux où s'il n'y avait pas de système de sommeil, comme tu parles. Oui. Donc, ce scénario ne serait pas réaliste.
Mais c'est que c'est pas impossible d'y aller. C'est juste que ça demande beaucoup de ressources, comme je disais.
Combien de temps aller sur Mars?
180 jours.
Ça me surprend. C'est pas si
pire. Non, mais c'est pas plus long que ça. Mais là, tu vois, j'ai pris mes notes il y a 2 semaines.
Non, mais c'est plate 6 mois, mais c'est pas si long. Non.
Je pensais que c'était plus long que ça. Mais tu sais, j'avoue que tu me mets 6 mois dans un pod...
T'as le chance de changer d'idée.
Ben, ça prend des gens qui ont vécu au Québec. Une stabilité extrêmement forte. Là,
oui,
mettons,
mais je veux dire, il y en a du monde qui vont sur la station spatiale pendant aussi longtemps que ça, puis ils virent pas fou, mais t'sais, ils ont aussi beaucoup de choses à faire, puis ils sont très près de la Terre. Puis là, c'est parce que t'as pas de contact.
T'écoutes tous les décidérés.
Oui.
Tu sais, je pense à ça pour vrai. Point de vue psychologique, avec la réalité virtuelle aujourd'hui, j'imagine que ça peut aider pas mal dans le sens que tu peux avoir l'impression d'être ailleurs, de ne pas être dans une canne de conserve dans l'espace. Ouais. Là.
Il y a ben, comme dans le film là, de Steven Spielberg, là, le rapport minoritaire, où les prisonniers sont dans des pods et ils vivent une réalité alternative.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, il me semble qu'il y a un autre film d'espace aussi, qu'il y a ça, là, ils peuvent aller puis voir des beaux décors. Puis
souvenir, mais là, il fallait rentrer.
Non, mettons, je pourrais être constamment au milieu d'une orgie.
Tu pourrais.
Théoriquement, avec mettons, des gants qui fait que ça touche.
Oh mon Dieu.
Pendant 6 mois.
Il y a des faux bras.
Plein de petits bras qui donnent des chocs électriques.
Ton pénis,
il y a plein de queues
partout. Oh my God.
Ben, j'ai trouvé la solution. Un autre sujet.
Trop de dépenses d'énergie, Julien.
Je sais pas, je pense que c'est en tant qu'elle en dépenser, en tout cas. La seule affaire que je suis pas cheap pour dépenser, c'est ça. Fait que, ben merci beaucoup, Sophie. Hey, est-ce que ça faisait le tour du...
Oui, ça fait le tour de la libération.
On n'y est pas, mais on se dirige.
Oui, d'ici 20 ans qu'ils disent.
Parce que dans le Romano Fafard, là, les épisodes où est-ce qu'ils veulent pas payer tous les acteurs, là, ben, tu sais, ils sont dans un pod.
Oui, dans des
là.
Pods. Ouais, ça s'en vient, hein, d'ailleurs, le départ.
2034, je crois.
Oui.
Fait que ça s'en vient. On va le vivre de notre vivant. C'est comme au coin de la rue, là. C'est moins loin que j'ai fini mon cégep, mettons. Là.
J'imagine qu'il va partir de l'aéroport de Saint-Hubert, de quoi de genre. C'est là qu'il y a l'Agence spatiale canadienne.
Je sais pas, demander à Guy Jodoin, je sais pas. Merci beaucoup, Sophie.
Ça fait plaisir.
On va continuer avec M. Lester, tiens.
Ah.
Ben, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est normal, Lester. Je suis très, très excité d'être avec vous, car on vit en ce moment une période historique au point de vue sociopolitique. Et je suis venu pour vulgariser un petit peu la situation. Écoutez, il y a une invasion qui se passe en ce moment en Europe. C'est les Romains qui essayent de conquérir un village d'éruptibles gaulois. Rome n'avait jamais vu venir ces opposants-là qui... jusqu'à récemment, n'avait pas apparu dans la file d'actualité comme des opposants. Ils vivaient chez eux, ils étaient autosuffisants. Il y avait d'ailleurs un marchand de poissons et d'ailleurs la rumeur veut que son poisson n'est pas très frais.
Oui.
Mais ils sont quand même sur le bord de la Méditerranée, donc j'imagine... que le poisson ne doit pas être si pire.
Mais là, est-ce que c'est les Gaulois qui essaient... Comment, pourquoi tout à coup, c'est venu à l'oreille
des... Ne pas ses punchs,
OK, excusez.
Non, allez-y, jeune Sophie.
Oui, oui, pourquoi tout à coup les Romains ont pris connaissance de l'existence de ces Gaulois-là?
C'est que les Romains ont une soif de pouvoir et ils veulent conquérir au-delà de leurs moyens. En fait, ils veulent s'approprier cet espace... qui est complètement inutile pour eux. Ils sont déjà en terrain qui longe la mer. Ils ont beaucoup de ressources déjà, mais ils veulent avoir le pouvoir total.
Mais là, est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Est-ce que les Romains sont dangereux comme la Russie? Vont-ils comme créer une alliance pour conquérir l'Europe?
Les Romains.
Eh bien, les Romains, en ce moment, ils sont en train de se nourrir eux-mêmes et se dévorer eux-mêmes, j'ose dire. Car il y a des rumeurs qui circulent qu'à Rome, ce n'est pas joyeux, et que même Brutus, le fils de Jules César, aurait des plans de l'assassiner et de prendre le pouvoir. Donc, n'est pas César qui est heureux. Et
Moi, ce que je me demande...
Là, ça n'a pas encore eu lieu, là. Ils essayent, ils ont entouré la Gaule et le village ça ne marche pas parce que dans ce village-là, ils font beaucoup appel à une espèce de cocktail Molotov qu'on appelle la potion magique, qui est une potion que le chef...
Panoramix.
Merci.
Mon Dieu,
beaucoup.
Tu connais la politique, Julien?
La Gaule, c'est l'Union européenne. Et avec cette potion magique, ce cocktail Molotov repousse l'armée russe. Et là, on commence à en apprendre un petit peu plus ce peuple de guerriers valeureux. Il y a un petit bonhomme... qui me fait penser étrangement à notre joyeux animateur, Julien. Julien, je ne sais pas si tu es capable de l'imiter, mais il s'appelle Astérix.
Dans ma l'arté.
Oh, il est bon.
Alors, c'est le matin pour tout le monde. Dans ma l'ester, non.
Oui, et voilà, il est toujours avec son acolyte qui,
Partout à tisse.
Lui, a bu un cocktail Molotov.
Notre druide panoramix.
Et est devenu, ma foi, assez surprenamment costaud. Il me fait penser un petit peu à notre animateur, chroniqueur, Étienne. Est-ce que tu pourrais m'imiter, Obélix?
Attends un instant. J'aimerais avoir plus de potions magiques, Astérix.
Obélix, que tu es bête.
J'en veux voilà. Juste une petite goutte.
C'est un peuple fascinant avec des expressions fascinantes. Si je peux vous en nommer quelques-unes, en entrevue, les journalistes de guerre sur le terrain les ont interviewés et j'ai noté, là c'est sûr que je vois rien. Ils ont des termes qui sont très familiers. Moi, j'associe ça un petit peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par exemple, quand ils sont surpris, ils disent par tout à 10. C'est ce qui est un folklore, ma foi, fascinant. Ils ont aussi, bon Dieu, je vois rien.
Pardon, Fabrice.
Le ciel nous tombe sur la tête en faisant référence à ces fameux Romains.
Bon, on dit ça,
et semble-t-il que César aurait dit à Brutus, « Brutus, la faute n'en est pas qu'aux étoiles », qui veut dire que « Brutus, tu es triste, tu voudrais avoir mon pouvoir, mais il faut que tu le prennes et il faut que tu prennes tes responsabilités. » Alors voilà, c'est fascinant.
Mais là, c'est dommage parce que ce conflit-là est complètement éclipsé par la guerre en Ukraine. Puis on n'en entend pas vraiment parler dans les médias.
Ça a-tu lieu en même temps, ça, là?
Ça se passe en ce moment,
même
là.
Temps, sauf qu'il y en a un qui ne se passe pas à la même époque que l'autre.
Moi, je vais vous poser une question, là, M. Lester. Je pense que je suis pas le seul qui pense à ça. Là. C'est bien beau, toutes ces histoires-là, là. Mais comment ça va se refléter sur le prix de l'essence à la pompe ici?
Ah, oui. C'est vrai, ça. Heureusement, avec le marchand de bœufs, ils n'ont pas besoin d'essence. Le marchand de bœufs a une excellente chanson. Je ne sais pas si vous pouvez la fredonner avec moi. Je suis un marchand de bœufs, plus malheureux, plus heureux.
Est-ce qu'on peut s'attendre alors à une augmentation du prix du bœuf dans ce cas-là?
Le prix du bœuf est pratiquement inaccessible là-bas, car on sait que là-bas, leur ressource, c'est les menhirs.
Les menhirs.
Le menhir, mais on n'en a que faire des menhirs. Je me suis déjà commandé un menhir chez nous. Ça traînait dans mon salon pendant un an.
Oui,
ma femme s'est allée et on l'a jeté à Noël.
Et tout ça, c'est de la géopolitique?
C'est de la géopolitique,
sociaux.
En quelque sorte.
Sociaux, géo.
Pas de l'histoire. Il y a une femme qui fait beaucoup la promotion de ce village d'indirectible gaulois qui est Falbala. Il y a même eu un documentaire qui s'appelle Astérix et Obélix, où c'est que Obélix essaye de la droguer pour qu'elle l'aime. C'est assez élevé.
Oui, je crois que j'avais vu un documentaire aussi sur la crise des condos qu'il y avait eu au village, là,
le
dans ce temps-là.
Le domaine des dieux.
Oui. C'était quand même super intéressant. Oui, j'avais intéressant, bien aimé vrai. Ça.
Effectivement, les condos sont rendus inaccessibles parce qu'ils sont construits uniquement en menhir. Mais un menhir, tu ne peux pas vraiment isoler une maison avec ça. Et c'est très froid, c'est à côté de la Méditerranée, donc... Mais c'est une histoire de courage et un peu, comme j'ai parlé à dernier épisode, du célèbre village des Schtroumpfs qui combat l'irréductible Gargamel.
Pas tout à fait à la même époque non plus, oui.
Qui sont pas à la même époque, mais ça se passe toujours en mars.
Ça sent en commun, ça revient tout ça.
Alors,
mars,
voilà.
Le mois, tu sais, dieu de la guerre, ça doit être pour ça, hein?
Mars, c'est le dieu de la guerre. Eh bien, c'est des choses
que c'est le dieu du chocolat.
Je ne sais pas jusqu'à récemment et que je comprends maintenant. Alors, voici pour mon reportage sur la crise en Gaule. On souhaite que les Romains se retirent et s'excusent.
Hashtag fin de la guerre.
On se le souhaite.
Merci, M. Lester, de nous tenir informés sur ce qui se passe dans le monde à d'autres époques.
Ouais.
Mais en même temps, dans un contexte de fiction. c'est sûr. Merci, M. Lester. On va continuer avec Étienne Forêt. Qu'est-ce qu'il en pense?
Ben oui, donc.
Je le regarde depuis tantôt, là.
J'ai préparé des choses.
J'imagine faire de la crazy carpet. On va mettre ton thème.
Ben oui, vous me direz quand il est fini.
Ah, tu l'entends pas, toi.
La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien que tu.
Il est fini.
All right.
Hey, à ton tour, Étienne.
J'ai été faire un petit tour sur questions de tout genre cette semaine. Et j'ai découvert une question fort pertinente qui m'a permis de faire une de mes grandes études statistiques et sociologiques. Puis je voulais vous poser la question à vous aussi. Ah oui, Monsieur Lester, je sais que ça va vous titiller. Il y a quelqu'un qui a posé une question anonymement sur le groupe d'ailleurs, parce qu'on peut faire ça maintenant. Là, ça va juste être indiqué membre du groupe, puis on ne sait pas qui a posé la question. Parce que c'est un sujet quand même délicat. Hier, j'ai eu un petit débat avec ma blonde. On va bientôt emménager ensemble et je lui parlais d'installer des crochets dans la salle de bain pour nos serviettes. Le débat est que selon elle, ça ne sert à rien qu'on s'installe ça dans la salle de bain car on ne devrait jamais utiliser une serviette plus d'une fois pour s'essuyer après la douche.
Quoi?
Elle me dit qu'il reste encore des saletés sur notre peau quand on s'essuie. Ça reste sur la serviette. Moi, je lui dis que j'utilise la même durant une semaine, puis je la change. Oh. Étant deux adultes et un enfant, allons-nous devoir faire autant de lavage de serviette que ça à chaque semaine? Et vous, vous changez votre serviette après combien d'utilisations?
Ben, moi, je dirais, mon Dieu, c'est un cas de divorce, là.
Ouais, oui, clairement, ça tiendra pas la route, là, sur ce mariage.
À quelle fréquence laves-tu tes serviettes,
mais,
Julien?
Ouais, ben, mais vous, c'est ça.
Faut demander à Raphaël.
C'est ça.
C'est ça. Toi, t'as aucune idée, même.
Mais Julien, mettons, si tu t'en vas en tournée, là, pour 4 jours...
Je vais vous en aller avec ça, M. Lester.
Combien de bobettes vous amenez pour le périple?
Ben, pourquoi s'en venir aux bobettes?
On parlait de serviettes.
J'ai amené 5 paires de bas. 5 t-shirts.
Mais on est quand même parti 4 jours, puis t'as amené 2 paires de bobettes.
Ah oh, ouais.
Ce qui est un calcul audacieux, tu sais, dans le sens où t'es prends, là.
Mm-hmm. Non, mais genre...
Il était pas propre ou...
Ben oui, il était propre.
Puis tu sais, on fait des shows, là.
Ouais.
Ben oui.
On a chaud, là, de la
on
poche.
On transpire souvent, ben oui.
Et on fait beaucoup
moi, je
veux
pas
de voitures à travers tout ça aussi, là.
Hein?
On fait beaucoup de voitures.
On faisait pas mal, c'est assez loin, c'est vrai.
Ouais. Mais là, non, mais c'est... hors contexte, ça a l'air pire que ce que c'est. Mais j'aimerais bien écouter le jeune homme. En
oui.
Oui.
Mais voilà. Moi, je voulais ton take à toi, Étienne. C'est quoi ton opinion sur le sujet?
Ben,
les
moi, personnellement...
Les serviettes.
Oui.
Les serviettes, moi, je suis bien correct avec l'idée de les laver une fois par semaine. C'est comme ça me semble... S'ils sont suspendus adéquatement puis qu'elles sèchent, ça me semble correct. Mais là, les avis sont quand même assez partagés sur questions de tout genre. Il y a eu 77 commentaires, mais là-dessus, seulement 56 d'entre eux sont des réponses à la question, parce qu'il y a tout le temps un peu du commentaire philosophique à côté qui ne donne pas une vraie réponse ou des niaiseries. Mais la réponse la plus populaire, c'est sur les 56, il y a 17 répondants qui ont dit à toutes les semaines, donc qui sont de l'avis du membre qui a posé la question.
Je suis de cet avis-là, Étienne. Moi, je vais à j'ai pas d'entrée laveuse sécheuse chez moi, donc je vais à la buanderie à tous les 2 semaines et j'ai un roulement de 2 serviettes, si on veut. J'en ai d'extra, si un ami ou une amie,
exact.
Peu importe. Mais j'ai 2 serviettes en roulement une semaine.
Tu vas pas garder 14 serviettes, ça n'a pas de sens.
Mais moi, je les lave pas à chaque semaine, là. Je m'excuse, c'est peut-être gross, mais en même temps, comme vous savez, je prends moins ma douche, comme j'en avais parlé, tu sais, je prends ma douche aux 2-3 jours.
Ça dépend
parce
du nombre de douches.
Oui, c'est ça. Fait que... pas si pire. De toute façon, c'est juste de l'eau. C'est littéralement juste de l'eau.
Ben, c'est ça la question.
Oui,
mais
c'est
tout le monde
bien,
n'est pas d'accord avec cette
une
idée-là.
Une fois par semaine m'apparaît raisonnable.
Vas-y, Étienne, parce que là, la suite va nous surprendre.
Ben oui,
c'est ça. La deuxième réponse la plus populaire, c'est 2 fois par semaine.
Quoi?
Oui. Puis là, il y a du monde là-dedans qui vont dire à chaque utilisation, il y en a 4 sur 56 qu'ils prennent leur douche puis ils mettent la serviette au lavage immédiatement. Puis souvent, ils vont faire donc du lavage à tous les jours.
C'est ça.
À cause
c'est comme
de
pas
ça.
Une paire de bobettes, là, voyons.
Oui, c'est étonnant.
Ouais,
il y a une personne qui répond on les lave quand ça pue, donc ça peut varier.
Voilà, s'il pue, OK.
Oui, mais ça, souvent, c'est parce que ça sèche mal quand ça pue. C'est parce qu'il reste. C'est l'humidité qui pogne.
C'est ça. Exactement. Là, je vais vous lire quelques bons commentaires. Donc, il y a Nadia Chandonnet qui dit « Faites la moitié du chemin chacun, hihi ». Donc, elle, finalement, elle répond pas vraiment à la question « Qu'est-ce que vous faites? » Mais ce qu'elle propose, c'est donc de les laver 1-2 fois par semaine pour être à mi-chemin.
C'est ça, c'est comme
entre...
pas réconciliable, tu sais.
Si non, c'est ça.
Si t'as quelqu'un qui est team tous les jours, quand même bien que tu lui dirais…
Aux quatre jours.
Ça passera pas. Là,
c'est ça. Ça fait pas un bon compromis, vraiment. Là. Ensuite, il y a Martine Wildcat qui répond 2-3, point de suspension, franchement, en majuscule. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. 2-3 quoi, on le sait pas. Patrick Bergeron dit « Me semble que c'est exagéré. Vous êtes trois, donc au total 21 serviettes et probablement autant de débarbouillettes. Si t'es encore sale en sortant de la douche, t'as pas bien fait ton boulot. Elle a un problème, ta copine, et ça va aller en empirant. » Donc, il va d'une prévision sur la psychologie de cette personne.
Ben, moi, savez-vous comment je me lave les cheveux?
Non.
Je la mets dans la laveuse.
D'ailleurs, les débarbouillettes, là.
Bon. Je pensais que vos cheveux se lavaient tout seuls en se léchant la patte toute la journée, mais...
T'avais une opinion sur les débarbouillettes?
Ben, j'utilise pas de débarbouillettes, mais ça m'étonne, je comprends. Ouais.
Ben, je pense que c'est l'exfoliant là, de la débarbouillette qui vient gratter. Okay.
Ouais.
Je n'ai pas de débarbouillette dans la douche.
Moi non plus.
Mais tu les utilises où, ma foi du bon Dieu?
Les débarbouillettes? Mais j'en utilise pas.
Hein?
Juste le savon direct sur ma peau.
Elle se savonne à la
barre. Je me savonne à la barre, c'est ça.
Ben, normal.
Il est comme wouh!
Ben non, ben moi, je juste savonne à la barre.
Ben, c'est ça.
Ouais,
en tout cas,
correct,
bref. Je sais pas, il y a du monde qui utilise des débarbouillettes. Ça me...
Ben
je
écoute, c'est ça. Chacun
y va avec chacun sa vie, sa douche.
Oui, exact. Ensuite, Annick Lachapelle, elle a dit « Mon chum la change chaque fois. Moi, non. J'ai des crochets pour moi et lui, il les utilise juste pas. C'est parfait, ça m'en fait plus. » Donc elle, ça lui fait juste plus de crochets. Ouais. Fait que c'est le fun.
Tu peux t'accrocher après.
Ben exact. Marlène Richer, elle a mis un lien sur passeportsanté.net/dossier-complexe. Quand faut-il changer son linge de bain? Je ne l'ai pas lu, il n'y a pas eu aucun like à ça.
Ben à tout le moins, il y a une recherche. Là. Ça, je donne un point, moi.
Mais là, je vais faire une chronique là-dessus la semaine prochaine.
Ben, il faudrait savoir les serviettes.
Comme deux
dans
semaines
l'espace.
De suite sur ce sujet-là.
Sur les serviettes. C'est un sujet.
Dans la station spatiale, là, ils se lavent leurs serviettes à chaque jour, ça me semble.
Ah, mais ça, j'avoue, en l'hygiène, je suis pas sûr que j'en ai même parlé.
Ils se lavent avec des pilules.
Oui, exact. Tu prends une pilule, puis t'es propre. Audrey Corriveau dit « Je change de serviette à chaque jour. Je change aussi la serviette à main plusieurs fois par jour. Je fais une brassée de serviettes tous les soirs et je lave des barbouillettes, serviettes à main et linge à vaisselle à travers mes autres brassées le jour. » Fait qu'elle, finalement, elle fait juste du lavage tout le temps. Roxane Rioux, « Si elle reste sale après sa douche, c'est qu'elle se lave pas comme du monde. » 3 émojis de rire aux larmes. Lina Tremblay, « Faut pas être zélé quand même. Il y a un bout de capoté. » Voilà.
Oui. Je comprends ce qu'elle veut dire.
Ouais. Jean-Pierre Genet, qui y va d'une bonne tirade de mansplaining, qui décide de nous mansplainer tout ça, explique-lui que si elle se lave bien avec du savon, normalement, elle ressort de la douche seulement humide. Et si elle en doute, elle peut utiliser un gant de crin ou autre pour approfondir son hygiène. L'important est de bien étendre sa serviette pour qu'elle puisse bien sécher, car l'humidité qui persiste trop longtemps dans un linge développe une odeur d'humidité causée par le développement de micro-champignons, entre parenthèses, moisissures. Mm-hmm. Si elle est trop capricieuse pour utiliser plus qu'une fois sa serviette de bain, il te reste comme solution de lui faire comprendre la logique ou de lui laisser assumer son manque de compréhension en lui laissant nettoyer plus souvent les brassées de linge sale.
Comme la punaise.
Nettoyer les brassées.
Oui.
Donc voilà, merci
Jean-Pierre. La solution, c'est de lui mansplainer les serviettes.
Oui, d'y expliquer comment ça marche une serviette, puis sinon, ben, qu'elle fasse le lavage d'abord. Voilà.
Ben oui.
Ouais, fait que ensuite on a Jocelyne Fortin qui dit normalement c'est à chaque semaine qu'on doit changer, sinon vous passerez votre temps à vous laver et vous n'aurez aucune vie de famille. Donc ça c'est
mais voyons.
Un grand fléau.
C'est sûr.
J'ai pas vu mes enfants depuis 6 mois, je suis tout le temps en train de laver les serviettes. J'ai plus le temps de rien faire d'autre. Sophie Brousseau dit je dois être folle, je le change à chaque douche et mon fils aussi. Tu sais, tu fais caca là dans la douche, ta serviette s'imbibée de toutes les bactéries. Parce que c'est la pire place de la maison. Mais chacun a sa façon de voir les choses, c'est tout.
Je présume qu'elle veut dire on fait caca avec notre corps. Sinon, ça se.
Ben, elle veut dire dans la pièce. Dans
elle
ne
doit pas avoir de bidet, en tout cas.
Okay,
dans la pièce.
Elle ne doit pas chier dans la douche. Là.
Non, ben, je pense pas. Ça, c'était juste.
Oh mon Dieu, les gens et les germes, c'est bien pire que je pensais.
Ouais, puis là, il y a Patricia Giasson-Joubert qui répond à ça. Ben techniquement, les bactéries de caca ne sont pas volatiles, ne volent pas jusqu'à la serviette.
Oui.
C'est pas fou.
Peut-être.
C'est mon ami Yannick Papineau que je salue qui m'a allumé là-dessus. Quand tu sens de la marde,
oui.
c'est physique, là, c'est quelque chose qui te rentre dans le nez.
C'est quelque chose. C'est
donc,
du métal.
Il y a de la marde
en fait,
partout. Mais tu sais, là, après ça, c'est la vie.
Oui, mais oui, puis c'est ta propre marde, là. Désolé, mais genre, fait que théoriquement.
C'est celle des gens avec qui tu habites.
Oui, mais tu sais, c'est pas nocif.
Non,
pense
c'est ça,
pas,
je veux dire.
C'est
bactérien. Il y en a, parce que c'est la vie. Là.
si on arrive jusque-là qu'il faut laver nos serviettes parce qu'on a chié pas trop loin d'eux,
ouais,
qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec genre tout ce qu'il y a dans la salle de bain, les bouteilles de shampoing, les brosses à dents?
Puis je sais pas si l'odeur, c'est vraiment les mêmes particules. Ben,
c'est ça. Hey, moi, personnellement, je chie dans ma salle de bain depuis 66 ans et j'en suis pas mort. Alors, je crois qu'on peut espérer que c'est pas si grave que ça.
Je pense que l'être humain chie proche de ses serviettes depuis plusieurs
depuis
les années.
On saura que les hommes des cavernes, sociopolitiquement, ont commencé à chier dans les cavernes parce qu'il faisait trop froid à l'extérieur.
C'est vrai.
Ouais. Puis au pire, là, ça fait quoi, genre, que tu... Que ta serviette est comme pas partie 100% propre? Genre, personne va mourir de ça? En tout cas, excusez.
Non, c'est ça. Ben, en tout cas... Chacun ses petites manies. Je vais conclure avec les deux derniers commentaires. Il y a Francine Daisy Caron qui dit « Si vous commencez... » Là, il y a une majuscule à chaque mot. « Si vous commencez à vous obstiner pour des serviettes, qu'est-ce que ça va être tantôt? » Ça, ça finit avec 5 H. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire. Quand ça. Elle expire bruyamment.
C'est un serpent.
Et voilà. Et finalement, Marie-Chantal Blouin, qui, elle, est hors d'elle, « Hostie de mentalité de poule de luxe. Quand l'eau sera comptée, il va falloir y penser. T'es propre quand tu t'essuies. S'ils vendent des portes-serviettes, c'est pour s'en servir. »
C'est vrai.
Yes!
Donc voilà, team se servir des
portes-serviettes.
C'est
clair,
ils n'en vendraient pas.
Il n'y a pas consensus. Dans la même ordre d'idée, s'ils vendent des pistolets, c'est pour s'en servir.
C'est pour s'en servir, exact. C'est une mentalité de poule de luxe qui ne veut pas tirer du monde avec ses guns.
Mais mettons, la majorité, c'est une fois par semaine.
Aux semaines.
Une fois par semaine.
Oui, exact. Une assez écrasante majorité, là, parce que s'il y a 17 personnes sur 56 qui ont dit ça, puis le deuxième plus proche, c'est 6.
Ça m'apparaît raisonnable.
Ce qu'il a dit deux fois par semaine.
Ouais.
Fait que les friands d'une fois par jour sont peu nombreux. Là.
D'accord. Mais oui. Merci Étienne, se laver puis chier dans la même pièce, n'a plus de secret pour nous. On va terminer avec Maxime.
Vas-y, la chronique à Maxos. Il y a quelques semaines, j'étais avec Laurence chez notre bon ami Simon Chénier. Puis des fois, on va là, puis Simon Chénier, en bon archiviste qu'il est, tu sais, il a une grande collection de films. Puis quand j'y vais, il m'a fait écouter pour la première fois de ma vie, exemple, L'homme idéal ou Idole instantanée. Puis l'autre jour, on jase, puis là, il défile les films qu'il y a. Puis à un moment donné, je vois Jonas La Quête sur le chanteur Jonas Tomalty, là, qu'on voit plus bien. Documentaire qui a été fait en 2006. Et là, je fais, j'ai jamais vu Jonas, puis on a décidé de l'écouter. Et je m'attendais pas à vivre ça. On dirait que j'ai eu une révélation là, puis un coup de cœur instantané et immense pour ce documentaire-là. Il y a plusieurs...
Le film ou l'homme?
Le film.
Ah, OK.
Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est entre autres, je pense, là, majoritairement, parce que ça a été fait en tournée en 2006. Et tu sais, notre nostalgie est comme pas encore en 2006. Tu sais, on commence là à être nostalgique de voir revenir des trucs des années 90, là, mais 2006, on dirait que c'est encore un peu dans notre angle mort de... Oh, on a un peu honte de ces photos-là, de les Fedora, les jeans taille basse, les filles qui avaient comme des mèches, puis...
Tous mes Fedora.
Oui, non, mais c'est ça, les genres de chemises pas de manches .0, là, avec des pantalons blancs.
Il y avait beaucoup de chemises avec des imprimés.
Il y en avait beaucoup,
À l'époque, on ne connaissait pas cette mode-là.
Fait que dans le documentaire La Quête, qu'est-ce qu'on suit? Ben en fait... On suit un peu le processus de Jonas qui va sortir, je crois, son deuxième album. Puis, c'est que dans la première partie du documentaire, il y a beaucoup d'entrevues de l'entourage de Jonas, tu sais, qui disent « Ah, Jonas, il est né pour être une star mondiale. » Puis, il y a pas de top pour Jonas, c'est toujours plus haut. C'est des gens qui parlent de Jonas. Puis, à chaque fois qu'on voit Jonas, c'est comme pas en entrevue, c'est comme tu sais, un peu bootleg de lui dans le spa. Qui a l'air d'être lendemain de brosse. Puis il fait juste rock and roll.
Nice. Genre... Attends, mais c'est qui a fait ce documentaire-là?
C'est son équipe, là. C'est sa gérante. Okay.
Mais comme lui, il était comme, moi, je veux pas m'impliquer.
Ben, je sais pas pourquoi, là, mais la première partie, mettons, première demi-heure, là, t'as l'impression que c'est des gens qui parlent de Jonas, puis que quand ça tombe à Jonas, il fait juste comme, you can't be rock and roll if you're not rock and roll.
C'est sûr.
C'est vraiment une espèce de vision du rock
tu sais, qui n'existe plus. Puis, tu sais, le rock n'a plus ses notes de lettres de noblesse tant que ça aujourd'hui. Tu sais, puis là, tu regardes ça, tu dis, ah ouais, je comprends pourquoi c'est comme devenu une joke. Puis qu'on en rit. Ceci dit, tu sais, j'enlève rien à Jonas. Pour vrai, le gars, il est super talentueux. C'est juste que j'ai l'impression que lui et son entourage sont tous dans une espèce de mode de pensée ou d'un système de showbiz qui fait plus aucun sens aujourd'hui. Puis il faut aussi saluer sa gérante, Jenny quelque chose, là, que c'est elle qui vole le show, là, ça n'a pas de destin de bon sens.
D'une
là.
Manière un peu sociopolitique, oui. Est-ce qu'on pourrait comparer ça un peu à l'arrivée de Nirvana et Motley Crue était complètement dépassé ou
avec Jonas?
Les Twisted Sisters ou...
Ouais, on pourrait comparer ça à ça, j'imagine.
Qu'il était dépassé par son époque.
Ouais, on pourrait... J'imagine, ben tu sais, justement, à un moment donné, sa gérante, on la voit en entrevue, puis là, elle dit, Jonas, c'est la rockstar du moment, c'est la rockstar des temps nouveaux. Puis là, elle dit, puis là, je paraphrase, elle m'a dit... C'est qui remplit des arénas? C'est-tu les Strokes? Non. c'est un des bands les plus influents de cette décennie-là. Oui, puis à un moment donné, c'est drôle parce que chaque fois qu'il parle de Jonas, c'est comme c'est la rockstar, c'est le Jim Morrison, c'est Led Zeppelin, c'est Aerosmith, mais de 2006. Puis là, à un moment donné, ça coupe à un journaliste, un critique musical, puis il dit, le petit monsieur, il est là, il fait de la calvitie, des lunettes, puis il est juste comme, ben moi, c'est parce qu'on me vend l'image d'une rockstar, puis je suis prêt à l'accepter, là. Mais là, j'écoute la musique, je fais, bon, ben c'est une espèce de blues rock que j'ai déjà entendu, alors... ben, il faudra m'en montrer plus pour me vendre la rockstar qu'on me promet.
Lui, ils se sont dit, on va le mettre dans le documentaire.
Ouais, c'est ça.
Puis, le gars pas impressionné.
Là, après ça, on tombe. Deuxième partie du docu, c'est que sa gérante a fait le tour des boîtes de je sais pas comme si c'est ça, là, je connais pas ce système-là, mais des labels là, de disques pour qu'ils produisent l'album de Jonas et le distribuent mondialement. Parce que c'est ça le but, c'est que Jonas, c'est pas une vedette provinciale. C'est une vedette mondiale.
Mais on avait comme l'impression qu'il l'était juste à cause justement du branding.
Ouais,
tu sais, comme genre. Tu t'aurais pu croire qu'il était américain parce qu'il était tellement comme cool.
Ouais. Mais... Ben, il avait fait aussi la trame sonore, ben, le générique du moins du remake de la série Starkin et Hutch.
Je ne savais pas, tu vois. Fait que hey, là, je vais y aller rapidement. À chaque fois que sa gérante a dit « Bon, on s'en va rencontrer, je sais pas, Sony! » Puis là, t'as voir rentrer dans le building, ça écrit qu'ils n'ont pas pu filmer la rencontre. Puis là, après, c'est elle dans la... Ça a été une catastrophe. Ils nous ont dit que c'était intéressant, mais qu'il y avait encore énormément de travail à faire. Puis là, à un moment donné, là, c'est tout le temps échec. Puis là, à la fin du docu, elle dit « Jonas, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. » Elle dit « On a des commanditaires. »
Oh, mon
la
Dieu.
Famille,
là,
c'est
triste.
Tu vois son tour bus qui arrive, puis il y a comme un gros logo de Budweiser, de Sympatico et Belle Express. Quand le générique part à la fin, parce qu'ils finissent par avoir un contrat de distribution de Seymour Stein, qui est lui qui avait signé les Ramones à l'époque quand même.
OK.
Puis quand le générique part de fin, c'est juste un hostie gros logo Budweiser qui monte avant quoi que ce soit. Après ça, le logo de Sympatico, celui de Belle Express. C'est pour moi là, je pense que je vais l'écouter genre à chaque deux mois, je vais écouter ce documentaire.
Attends, mais là,
que,
ça se trouve
que je l'ai écouté deux jours de suite.
Je l'ai écouté deux jours genre dans la même semaine en tout cas.
Il
l'ai
sur
écouté
YouTube,
avec Simon
quelque chose?
Puis Laurence, puis je l'ai écouté avec Anto, puis il y a un moment donné où sont toute la bande ensemble avant un show, puis là Jonas il dit Let's rock with our cocks. Là j'étais comme rock with our cock. Ça vieillit pas mal.
Est-ce quelqu'un qui pourrait nommer à part peut-être Maxime, est-ce quelqu'un qui pourrait nommer une toune de Jonas?
You gave me something to dream about. Puis, hey, je vais terminer là-dessus parce que là, j'ai l'air de me moquer de Jonas, mais pour vrai, je le trouve super talentueux, le gars, pour ce qu'il fait, là, tu sais, il l'a. C'est juste que c'est ça, c'est comme si on dirait qu'il était pogné d'un modèle de pensée de comment on fait de la musique, puis comment... Tu sais, il faut jouer dans des arénas, puis faut... C'est comme « fake it till you make it
»,
mais les jupons dépassent, genre, ça n'a pas de bon sens.
Ben oui, maintenant, il est partout.
Que c'est bon, je le conseille, Jonas La Quête, là, j'ai adoré ça.
Si vous pouvez mettre la main là-dessus, ce qui est pratiquement impossible,
ouais, c'est conseil.
Puis tu me parlais de ça avec tellement d'enthousiasme, puis je te disais, ça me fait penser au documentaire « Ma peau » d'Éric Lapointe. Oui. Puis j'ai réussi à le retrouver par hasard dans la semaine qui a suivi que je t'ai dit ça, dans mes 1000 DVD. Je l'ai retrouvé, puis c'est comme 45 minutes. C'est une chronique en soi, fait j'en parlerai pas là.
Parfait, ça.
Puis c'est. C'est rien, là. C'est pire, je pense, parce que c'est vraiment rien, là. T'es pas joué au pool, puis y a pas de narration.
Tu sais, je vais finir là-dessus. Ce qui est drôle de 2006, c'est que, tu sais, on était tous des jeunes adultes, là. C'est là qu'on avait, genre, tu sais, début vingtaine, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, disons, le pic de nos vies, disons, on l'a vécu là, 2006, 2007, 2008. Puis tu regardes ça avec un peu de recul qu'on a aujourd'hui, puis tu fais « Christ, que c'était ridicule comme époque, là. Est-ce que c'était laid, là? Ça n'a pas de bon sens. » Fait que c'est ça, ça vaut la peine de se retourner vers cette période. Faire comme, oh!
C'est une belle capsule temporelle.
Oui, mmh. Vraiment. Voilà. C'est parce qu'on ne l'a pas encore revu cette époque-là au cinéma, tu sais, ou dans des séries télé qui se passent en 2006.
Un film qui se passe en 2006.
Non, mais c'est ça.
Mais il n'a pas été fait en 2006,
mais genre, tu sais, des jeans tie-bass avec une ceinture blanche, là.
Ouais.
C'est comme tu fais.
Ah ouais. Ah ouais.
C'est ça qu'on lisse.
Ben, merci beaucoup, Maxime. Voilà. Jonas Laquette, donc sur 10 popcorn.
À 10.
10 popcorn. Là, 10 popcorn sur 10. Ah, merci, oui. Maxime. Merci, Vincent. Merci, Monsieur Lester.
Ben, je ne connaissais rien de ce podcast-là avant de venir et j'ai trouvé ça fascinant avec des beaux jeunes hommes et une belle jeune femme. Bravo!
Ben, merci beaucoup, merci. Sylvester. Merci Sophie. Bien. Merci Mathieu qui fait la...
Modération.
La modération.
Ça fait plaisir, Julien.
Il y a bien meilleur goût, Mathieu. Alors, voilà. C'était Décidéré. On se voit la semaine prochaine. Puis pour les membres Patreon, cette semaine, j'aurai le documentaire sur ma gastroscopie. Je vais aussi en parler un peu à l'émission là, pour que tout le monde puisse la savourer un peu. Ouais, ultimement, un jour, je vais la mettre publique. Mais pour l'instant, ça va être sur le Patreon. Et pour les membres Patreon, justement, on continue avec Toujours vivant. Alors, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Merci, bye bye!
Bye!
Plus de rue, plus les cabanes, plus politique, plus la paix, une balado, fait de blé entier, maintenant voilé, dans les mains du blé.
Ha ha ha, loft.